Bon, ben parlons de la météo, ce qui s'est passé surtout hier. Simon Legault d'Environnement Canada est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Ben, parlons de Montréal pour commencer. Il y a eu moins de verglas que prévu, non?
Oui, effectivement. Donc, on prévoyait un mélange de précipitations. C'est exactement ça qu'on a eu dans la nuit de samedi à dimanche. Mais dans ce mélange-là, effectivement, il y a eu moins de pluies verglaçantes, pas mal plus de grésil qu'attendu, ce qui a diminué les impacts parce que les grésils, lui, ne collent pas aux surfaces comme le fait la pluie verglaçante.
OK, mais là, on prévoyait combien de verglas, puis on a eu combien?
Mais en fait, dans la fourchette...
Dans le cocktail, là?
Oui, c'est dans le cocktail, on avait un 15 à 30 précipitations verglaçantes glacées, si on veut, qui étaient attendues. Au total, pour Montréal, on a accumulé probablement un genre de 5-6 mm de pluie verglaçante. Et au total, là, c'est un 6 cm qui s'est ramassé au sol, mais un 6 cm de grésil, c'est quand même assez dense comme précipitation. En termes d'équivalent, on voit ce qui s'est passé du côté de Trois-Rivières, du côté de Québec. Ça donne un équivalent en neige beaucoup plus de quantité. En grésil, c'est vraiment de la glace qui est très, très dense. Donc, c'est pas mal la fourchette qu'on attendait. L'impact a été moindre parce que c'était pas verglaçant, c'était pas collant. Donc, les branches ont été moins touchées. L'accumulation au niveau des routes, c'était moins important aussi. Donc, c'était moins une patinoire qu'attendu.
OK, mais pourquoi? Pourquoi il y en a eu moins?
En fait, c'est dans le mélange, la façon que le grésil se forme, la façon que la pluie verglaçante se forme, il y a une couche d'air plus chaude qui s'insère dans l'atmosphère, mais à une altitude. Donc, cette couche-là permet aux flocons de fondre. Donc, ça crée une gouttelette. Mais est-ce que la gouttelette va geler avant de toucher le sol ou pas? Si elle touche le sol et elle gèle rendu là, c'est la pluie verglaçante. Si elle gèle avant de toucher le sol, ça fait un petit morceau de glace qui tombe. C'est un grésil. Donc, de prévoir de quelle façon la gouttelette va regeler ou pas avant de toucher le sol, c'est ça qui est vraiment le challenge, dans le fond, dans la prévision. Savoir la couche d'air chaud, est-ce qu'elle est assez chaude, à quelle altitude, à quelle épaisseur. Donc, c'est vraiment un défi.
Et pour ce qui est de Trois-Rivières, Québec, la Beauce, là, on a reçu combien de centimètres de neige?
On parle d'une trentaine de centimètres de neige. Il y a eu beaucoup de neige, mais surtout beaucoup de vent aussi. Donc, l'impact venu surtout de la... mais entre autres de la poudrerie qui était importante, des rafales à 90 km/h à l'aéroport Jean-Lesage, à environ 80 km/h à l'aéroport de Trois-Rivières aussi. Donc, c'était très venteux. On a vu la route, l'autoroute 20 était fermée, la 132 aussi. Donc, les déplacements étaient très, très compliqués, même dangereux à certains moments. Donc, ça a été une bonne décision, probablement de ne pas prendre la route, donc de fermer la route parce qu'on aurait pu avoir des sorties de route, des impacts importants à ce niveau-là.
Parfait. Merci beaucoup, M. Legault. Éric Filion est le président d'Hydro-Québec Distribution. M. Filion, bonjour.
Bon matin, M. Arcand.
Alors, il y a combien d'abonnés qui sont encore privés d'électricité?
Hier, on a eu une pointe à 142 000, hier matin. Puis, en date de ce matin, sur nos appels, on parlait d'environ 9 000 clients, principalement à Montérégie. On parle de Granby, qui est le principal secteur, et tout ce qui est Saint-Bruno, Brossard, où on va concentrer évidemment nos effectifs aujourd'hui.
Mais pourquoi ça a été moins important que ce qu'on avait anticipé? Il y a quand même autant de gens qui ont été privés de courant.
Oui, en fait, 140 000, oui, c'est assez important. Il y a deux phénomènes importants là, au niveau électrique qui sont produits hier. Nos lignes haute tension dimanche matin, on a eu un phénomène qu'on appelle le galopage. Donc, les fils...
Ça veut dire quoi, ça?
Le galopage, c'est lorsqu'il y a des accumulations de verglas sur nos fils, ça change comme le profil du fil. Avec les vents transversaux, ces fils-là peuvent se mettre à osciller, ce qui peut déclencher des systèmes de protection ou même ça pourrait faire un bris sur nos conducteurs. Donc, ce phénomène-là a causé environ 100 000 clients en panne dimanche matin. Ça a été rétabli en début d'après-midi. Puis par la suite, bien, c'est vraiment ce qui vient d'être expliqué. Là. C'est le verglas sur les branches qui a causé des pannes sur le réseau de distribution.
OK. Là, il vous reste donc des pannes à réparer en Montérégie. Vous avez dit Granby, Saint-Bruno dans ce
oui.
secteur-là. Et il y a eu une mise à pied qui a été faite à la fin de l'année de monteurs de ligne, au nombre de 500, si ma mémoire est bonne.
En distribution, on parlait d'environ 400 employés
okay.
temporaires. Oui.
Est-ce que tous ces gens-là ont été rappelés?
Les rappels commencent cette semaine, mais évidemment, ça n'a eu aucun impact là, sur nos efforts du week-end. Je tiens juste à rappeler qu'on a environ 1500 monteurs en distribution. Donc,
OK, mais là, les gens vont se dire, si vous aviez ces 500 personnes de plus ou 400 personnes de plus, vous pourriez réparer plus vite à Granby puis vous pourriez réparer plus vite ailleurs?
Non. Comme je vous dis, ça n'a aucun impact. Hier, là, moi, j'étais sur tous nos appels de coordination. On avait un maximum d'effectifs déployés pour être efficaces. On avait même des entrepreneurs disponibles qu'on n'a pas utilisés. Donc,
mais pourquoi vous ne les avez pas utilisés?
Mais c'est toujours une question d'avoir une équipe par panne, dans le fond. Là. On ne peut pas mettre deux, trois équipes sur le même dossier. Donc, on était à maximum de capacité hier. Puis aujourd'hui, dans les
deux parce que régions... la question que les gens vont se poser, là,
oui.
S'il y a plus de monde qui répare, ça va réparer plus vite, non?
Oui, mais quand je donne un exemple, dans votre rue, si on a un transformateur à remplacer sur un poteau électrique, quand on a une équipe de deux monteurs, on ne peut pas être plus de gens pour réparer ça, puis ça prend X nombre d'heures. Donc, hier, ce que je vous dis, puis aujourd'hui, ça va être la même chose, on concentre tous les effectifs dans deux endroits principaux. Donc, toutes les pannes vont être assignées à des équipes. Puis ça nous donne une capacité maximale d'effectifs.
OK, mais ma question, là, pour être encore plus claire, là.
Oui.
Je comprends que vous avez le maximum de gens là, sur le terrain. Il y a quand même 400 personnes qui, potentiellement, peuvent faire cette job-là. Vrai?
Oui, oui, c'est des montants.
OK. Si ces gens-là, on les avait utilisés, est-ce qu'on n'aurait pas pu réparer des pannes dans des coins plus isolés, plus rapidement?
Mais ce que je vous explique, c'est que j'ai 1100 autres monteurs qui sont dans nos effectifs permanents qui
OK, mais
sont
si j'en rajoute 400, ça n'ira pas plus vite.
Non, parce que même les 1100, on n'a pas...
Mais pourquoi est-ce qu'on les rappelle, ceux-là, d'abord?
On les rappelle parce que après les fêtes, là, on va recommencer nos travaux de maintenance régulier sur le réseau. Donc, c'est des effectifs qui sont prévus pour toute la balance de l'année. Mais en cas de panne, en fin de semaine, si on avait eu besoin, on aurait pu les rappeler spécifiquement pour ça. Mais comme j'explique...
Mais c'est pas une question d'économie. Là. On n'est pas en train de sauver de l'argent pour dire, ben vous, à Granby, ça va vous prendre plus de temps à retrouver l'électricité parce que finalement, on ne fera pas rentrer personne.
Aucunement. On avait un maximum d'effectifs. Puis, tu sais, la notion de temporaire, comme dans plusieurs industries, là, c'est vraiment pour donner de la flexibilité opérationnelle, mais aucun impact sur les événements.
C'est pas pour éviter ces mises à pied-là d'avoir à créer des postes permanents.
Oui, c'est vraiment... On garde des temporaires pour se donner de la flexibilité selon les...
Mais ça évite de les rendre permanents.
Certainement. C'est ça l'objectif.
Mais c'est ça. Donc, ça veut dire pas des gens avec des conditions de travail d'employés à temps plein, là.
Ils ont des conditions temporaires qui sont prévues dans nos conventions collectives.
Okay.
C'est vraiment pour se donner de la flexibilité.
On a déjà parlé de l'entretien, notamment des branches d'arbres autour des fils électriques. Il y a des gens qui m'écrivent depuis la fin de semaine pour dire qu'ils ont appelé Hydro-Québec. Ils envoient des photos Hydro-Québec en disant « Voyez, là, c'est problématique. » Puis, entre autres, de ces gens-là, il y en a qui ont perdu l'électricité hier à cause des branches.
Oui. Oui, puis c'est clair que c'est un phénomène qui cause des pannes. Je suis déjà venu vous expliquer.
Oui.
Dans le passé, on investissait environ 60 millions par année dans la maîtrise de la végétation. 2019, on a investi environ 70 millions. Cette année, on monte à 80. Fait qu'on est vraiment en rattrapage à ce niveau-là. Ça, c'est important de l'expliquer.
Selon vous, là, sur le nombre d'abonnés qui ont perdu le courant hier, il y en a combien que c'est attribuable à des branches d'arbres ou à un mauvais entretien?
Je vais donner les chiffres ronds. On parle d'une pointe à 140 000 hier matin.
Ouais.
Il y en avait à peu près 100 000 qui étaient reliés au galopage des fils haute tension. Fait que la balance, c'est
plus... 40 000.
La 40 000, c'est soit de la végétation qui touche à nos fils, qui déclenche les protections, ou bien des équipements là, qui sont endommagés par le verglas, comme des transformateurs qu'on doit remplacer.
OK. Merci, M. Fillion.
Merci beaucoup.
Éric Fillion est le président de Hydro-Québec Distribution. On va retrouver Marc. C'est un matin pas facile. Deux poids lourds en flammes. Et notamment le pont Champlain, Samuel de Champlain, fermé direction de Montréal.